Ici, nous trouvons deux hommes de Dieu. On peut les qualifier plutôt un homme de Dieu et un prophète, un vieux prophète. On peut tous les deux les qualifier de serviteurs de l'Éternel. Et ce que l'on peut remarquer dans ce texte, c'est le verset qui me vient à l'esprit pour le qualifier, c'est « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Cet homme de Dieu, ce jeune homme de Dieu, avait finalement très bien commencé, puisqu'il se présentera avec courage devant Jéroboam et il donnera cette parole tout à fait extraordinaire qui effectivement s'accomplira. Et je le redis, l'une des principales caractéristiques d'un homme de Dieu, c'est le courage. Le courage d'aller devant les autorités, le courage d'aller devant Jéroboam et de dénoncer ses actions et de prophétiser qu'un Josias se lèvera et viendra renverser les hauts lieux que Jéroboam, pour des raisons politiques, aura instaurés. Vous savez, il est dangereux dans notre société de dénoncer le péché. Cela peut nuire à notre réputation, cela peut parfois nuire aux considérations humaines. Parler de Jésus peut parfois devenir un problème pour nous, lorsqu'on le fait dans les lycées, lorsqu'on le fait dans les collèges, parce que de toute manière, ça nous oblige à nous mettre en marge. Mais nous pouvons compter sur la protection de Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans ce texte. Remarquez bien, à un moment donné, Jéroboam va étendre sa main et va vouloir saisir l'homme de Dieu. Et que va-t-il se passer ? Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Dieu peut permettre parfois que nous soyons menacés. Dieu peut permettre que parfois, effectivement, nous soyons touchés. Mais en aucun cas, Dieu ne permettra que nous soyons touchés à mort. Je crois de tout mon cœur. L'évangile de Marc, au chapitre 16, nous le dit. Ils chasseront les démons en mon nom. S'ils boivent quelques breuvages mortels, alors il ne leur sera fait aucun mal. Je crois que lorsque l'on s'implique pour le Seigneur, je crois que lorsque l'on avance pour Dieu, alors l'ange de l'Éternel campe auprès de nous. Je crois que lorsque l'on avance courageusement, toute arme forgée contre nous est brisée. Peut-être as-tu l'impression que le fait d'être chrétien est un frein pour ta carrière professionnelle. Mais sache bien une chose, c'est que toute arme forgée contre toi est brisée. Peut-être as-tu l'impression que, et depuis que tu as parlé de ta foi à ta famille, les choses vont de mal en pire. Mais sache bien une chose, c'est que le Seigneur sera avec toi. Et que même si on étend la main sur ta réputation ou sur toi, la main qui sera tendue sera figée. Je crois que l'Éternel nous protège. Je crois que lorsque nous manifestons les caractères d'un homme de Dieu, le Dieu que nous servons, il nous accompagne et il nous protège. Amen. D'autant plus que nous n'oublions pas, nous sommes tout de même en France. Nous ne sommes pas en Inde, nous ne sommes pas au Bangladesh. Et nous avons quand même une certaine liberté d'annoncer l'Évangile, dont il nous faut user avec zèle, mais également avec sagesse, que le Seigneur nous y aide. Première caractéristique, après cette introduction et ce petit rappel, c'est que l'homme de Dieu annonce et cela se produit. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'on reconnaîtra le prophète au fait que ce qu'il a annoncé se produit réellement. Ce que va dire cet homme va s'accomplir. Effectivement, l'autel va se fendre. Je crois que la prédication, puisqu'on peut peut-être l'appeler ainsi, de cet homme, peut être comparée à celle que Paul va faire lorsqu'il écrit notamment à l'église de Thessalonique. Chapitre 1, verset 5, « Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Paul rappelle aux Thessaloniciens, et finalement ce qu'il dit contraste avec l'époque. Dans le monde grec, ce qui comptait, c'était la rhétorique, c'était l'éloquence. Les hommes aimaient se rassembler dans une grande assemblée, notamment qu'on pouvait appeler la boulée, et là, ils se lançaient dans des grandes joutes verbales qui étaient censées révolutionner la société. Ce qui comptait pour le monde grec, c'était l'éloquence, c'était la manière de parler, c'était le fait que les mots soient bien choisis, c'était une technique oratoire. L'apôtre Paul rappellera à l'église de Thessalonique, lorsque nous nous sommes présentés devant vous, nous ne sommes pas présentés simplement avec un beau langage, avec une belle rhétorique, mais nous nous sommes présentés avec des signes, L'évangile que nous vous avons annoncé a changé votre vie. L'évangile que nous, vous avons annoncé a transformé votre vie. C'est sur ce socle-là que vous avez construit votre vie spirituelle. C'est ça qui est important. Et l'homme de Dieu, il ne fonde pas sa prédication uniquement sur des capacités de communication, mais sur l'onction du Saint-Esprit. Il ne se prêche pas lui-même, je le rappelle, mais il prêche Jésus. Son discours est christocentrique. Jésus est au centre. Jésus est au centre. Alors que les faux docteurs, mettaient la loi au centre. Alors que les faux prophètes pouvaient se mettre eux-mêmes au centre. Alors que, dans les églises naissantes, il y avait toutes sortes de discoureurs. Paul écrira aux Éphésiens, chapitre 5, verset 6, « Que personne ne vous séduise par de vains discours. » À Timothée, il dira « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. » Lorsqu'il écrit aux Colossiens, il parle de discours séduisants. Lorsqu'il réécrit à Timothée, il parle de discours vains et profanes. Bref, on s'aperçoit que l'homme de Dieu fonde son témoignage sur la personne de Jésus. Dites-moi, j'ai envie de vous poser une simple question. Lorsque vous parlez de Jésus, lorsque vous donnez votre témoignage, sur quoi est-il basé? Y a-t-il de l'audace? Et je me pose la question à moi-même. Y a-t-il de l'audace dans notre manière de témoigner? Sommes-nous capables, et je me la pose à moi-même, de dire à quelqu'un, tu es malade, Jésus est capable de te guérir. Tu as un problème dans ta famille, Jésus est capable de le solutionner. Ton petit bout de chou, là, il souffre, Jésus est capable de le guérir. Ou bien, est-ce que finalement, nous sommes rentrés dans une conception un petit peu oratoire, en essayant de chercher des solutions à tout? Oui, mais notre Dieu, tu sais, voilà, il guérit en son temps. C'est vrai. Avons-nous conservé une forme de folie? Croyons-nous encore à la guérison divine? Ton collègue de travail qui est malade, je vais prier pour toi, le Seigneur est capable de te guérir. Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Je me souviendrai toujours de ce jeune homme, il n'est pas resté, c'est dommage. Il venait juste de se convertir. Et puis il part en vacances avec un copain dans les Pyrénées. Et là, sous la tente, son copain, je ne sais pas ce qu'il fiche, il se lève la nuit et puis il se frotte contre une plante. Et là, il se déclenche une éruption cutanée avec un début d'œdème de Quick. Il s'étouffait à moitié. Ils étaient en plein milieu dans les Pyrénées, perdus dans les Pyrénées. Et là, ce jeune homme qui venait juste de donner sa vie à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lui impose les mains comme il m'avait vu le faire en son temps. Et puis, il prie pour lui. Son premier réflexe, c'est pas le téléphone portable. Il prie pour son copain, qui était drogué de chez drogué. Le gars était complètement camé. C'est pas grave, il prie pour lui. Instantanément, l'éruption cutanée disparaît. L'œdème de Quick disparaît. Une démonstration de force et de puissance. Seigneur, redonne-moi ce feu, cette assurance, que mon témoignage ne soit pas fondé simplement sur des beaux discours ou à démontrer que les dinosaures ont existé ou qu'ils n'ont pas existé, que le livre de la Genèse dit vrai ou qu'il dit faux, peu importe. Mais que mon témoignage, que lorsque je parle de toi, il soit plein de foi. Que je ne cherche pas à expliquer que la Bible est vraie, ça ne sert à rien. Elle l'est. Mais que je donne de la matière au Saint-Esprit pour le prouver. Tu as un problème. Le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est capable de le solutionner. Et Paul le dira aux Thessaloniciens. Notre prédication, ce n'était pas simplement de la théorie, mais vous l'avez vécu. Emmenons nos contemporains. L'homme de Dieu emmène ceux qui l'approchent à vivre des choses similaires. Ou alors peut-être que nous n'y croyons pas autant que nous voulons l'affirmer, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes tous, et nous demeurons tous et toutes, des hommes de foi, j'en suis certain, j'aurais pas dû dire ça. Deuxième chose, l'homme de Dieu n'a pas de rancœur. Voilà que Jéroboam veut saisir cet homme de Dieu, et c'est pas pour lui faire un câlin. On peut imaginer la haine dans les yeux de Jéroboam. On peut imaginer la colère qui est la sienne. Et voilà que le jugement vient de tomber et Dieu vient de valider les choses. Le bras de Jéroboam reste bloqué. Il devient sec, paralysé. L'homme de Dieu n'a pas bougé. Et là, il entend la voix de Jéroboam qui lui dit « Bon, invoque ton Dieu pour moi. » Ça, j'ai compris la leçon. Et que va-t-il faire ? Qu'aurions-nous fait à sa place ? Écoute, je vais partir un petit peu plus loin, d'accord ? Ça ne te fera pas de mal de réfléchir. Je pense que c'est une bonne chose. Je vais aller sur la montagne, au fond d'une caverne, et puis là, je prierai pour toi. Personnellement, j'aurais peut-être agi comme ça. Non, il va invoquer, et le Seigneur va répondre. Il n'y a pas de rancœur dans le cœur de cet homme de Dieu. Il n'en veut pas à Jéroboam d'avoir attenté à sa vie. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'homme de Dieu, c'est qu'il annonce le jugement, mais qu'au travers du jugement, il annonce également le rétablissement et la grâce. Il vit le pardon. Tu veux être une jeune fille, une jeune femme de Dieu, un jeune homme, un homme de Dieu. Vis le pardon. Vis le pardon. Annonce le jugement tel qu'il doit l'être. Aimer quelqu'un, je le dis souvent, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien graver dans notre cœur. C'est être capable de lui donner des fessées de temps en temps. C'est ce qu'ont fait nos parents avec nous. Moi, je bénis tous les hommes de Dieu qui m'ont mis des fessées lorsque je le méritais. Mais ces hommes, ils ont toujours fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que les fessées qu'ils m'ont données, c'était toujours assaisonné d'amour, et de grâce et de relèvement. C'est ce qui va se passer. Regardez comment le Saint-Esprit fonctionne avec nous. J'aime bien mettre l'emphase là-dessus. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et ensuite, il nous emmène à la croix pour nous relever. Le diable, lui, il nous met là sous la culpabilité et puis il nous y laisse. Et puis s'il peut nous piétiner et nous enfoncer encore un petit peu plus bas, il n'y a aucun problème. Ça nous est tous arrivé à un moment ou un autre de voir ou d'entendre des choses. Et parfois, on a beaucoup jugé. A raison. Parfois, on est même allé voir les personnes, puis on leur a dit. On a séché le bras. Et puis on est parti. La personne avait encore le bras séché. Non. Seigneur, donne-moi de vivre la grâce. Je veux bien dénoncer le péché, mais toujours avec la grâce qui relève. Deuxièmement, Jéroboam, il va vivre le pardon. Pardon, cet homme de Dieu, il va accorder le pardon à Jéroboam. Ça vaudrait une étude biblique en entier, mais souvenons-nous de l'importance d'être capable de pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il pèse lourd ce verset. Il pèse lourd. L'homme de Dieu a cette capacité. La femme de Dieu a cette capacité. De permettre à un cœur qui est séché par la culpabilité de reprendre vie en accordant le pardon. Et n'oublions jamais que pardonner, c'est surhumain. c'est quelque chose qui ne vient pas de l'homme. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Encore faut-il que le pardon soit demandé. Encore faut-il que le pardon soit sincère. Encore faut-il que le pardon soit authentique. Ça, c'est autre chose. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, je dirais même, allez, le chrétien, le disciple, il a ce cœur qui est capable de pardonner, parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. J'aime le courage de ce jeune homme. Il accorde le pardon, il va manifester du courage. Troisièmement, on voit qu'il connaît les modalités de son service. Jéroboam va lui dire, écoute, viens casser la croûte à la maison. Et là, cet homme de Dieu de dire, non, mon Dieu me l'a interdit. Il m'a dit de ne pas m'arrêter, il m'a dit de ne m'arrêter chez personne, de ne pas reprendre le même chemin, etc. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il me l'a dit. C'est vrai que c'est étrange. On pourrait se poser bien des questions. Mais il me l'a dit. Dieu devait savoir. Et effectivement, il va être fidèle. Il aurait pu bien manger, parce que je suppose que Madame Jéroboam devait bien cuisiner, plutôt les personnes qui cuisinaient pour Madame Jéroboam. Mais non, il est rentré. Il est rentré. De la même manière, nous qui sommes des serviteurs, qui sommes des hommes de Dieu, j'aime bien faire cohabiter les deux d'ailleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi. On a un ordre de mission. On a une manière de faire les choses qui parfois ne correspond pas à notre propre logique, ne correspond pas à nos propres raisonnements, ne correspond pas à notre propre manière de faire. Lorsqu'on lit le sermon sur la montagne, on se dit, mais c'est pas moi ça. Non, c'est Jésus. Ça ne me ressemble pas, j'aurais jamais imaginé un truc pareil. Non, mais pourtant, c'est notre ordre de bataille, c'est notre ordre de mission. C'est ainsi que l'homme de Dieu, finalement, doit coder sa vie, doit calquer sa vie. Ça a pour but de nous protéger des mauvaises influences, de nous rendre plus efficaces. Et l'homme de Dieu doit les connaître. Alors, pour le cas qui nous occupe, c'est des ordres ponctuels qui lui sont donnés propres à lui. Il peut en être de même. Je me souviens de ce pasteur qui me racontait la chose suivante. Je discutais avec lui et puis on passait près d'un cinéma. Je lui dis, tiens, j'irais bien voir tel film. Puis il me regarde, il me dit, moi je ne vais pas au cinéma. Ah bon ? Et j'étais suffisamment à l'aise avec lui parce que c'était mon père. Et je lui dis, c'est vrai, je t'ai jamais vu au cinéma. Mais il me dit, tu peux y aller, ça pose pas de problème. C'est pas un souci. Je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, parce que Dieu me l'a demandé. Je l'ai regardé, je lui dis, mais quelles circonstances, comment ça se fait ? Il me dit, ça te regarde pas. C'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. J'ai jamais su. Mais ce que je savais, c'est qu'il avait reçu un ordre de mission, une manière de travailler qui lui était propre. C'était à lui. C'était entre lui et Dieu. Peut-être que quelqu'un parmi nous, ce soir, a reçu de la part de Dieu quelque chose qui lui est propre. Un axe. Une direction. Quelque chose qui peut paraître surprenante et que les autres ne comprennent pas. Que parfois même tes frères et sœurs dans l'Église ne comprennent pas. Suis-le. Ça n'est qu'entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de t'en justifier. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de l'imposer aux autres non plus. Ça t'est réservé à toi. Ce jeune homme, voilà. Il avait reçu cet ordre. Et il l'a tenu hein, devant Jéroboam. Et même lorsque le vieux prophète va venir le voir, il va dire, mais non, je ne peux pas. Et il a fallu que l'autre monte en disant « j'ai reçu une révélation d'en haut ». Méfions-nous des révélations d'en haut. Surtout quand elles ne nous sont pas adressées directement. On va y revenir tout à l'heure. Et là, il va violer l'ordre. Et il va, quand vous lisez le texte, il va y avoir un hélas derrière. Il va y avoir un hélas. Combien d'hélas dans la vie, parfois, d'enfants de Dieu? Parce que des règles ont été brisées. Parce que des règles ont été cassées. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu te demande, même si parfois ça peut te paraître injuste, compliqué, difficile, mais si tu sais que ça vient de Dieu, même si ça te paraît surprenant, complètement illogique, que ça te coûte, de grâce, fais-le. Accomplis-le fidèlement. Et sous aucun prétexte, il ne faut t'en éloigner, il ne faut le violer. Parce que sinon, derrière, il y aura un hélas. Derrière, il y aura un hélas. Cet ordre que le Seigneur a pu déposer en toi, suis-le jusqu'au bout. On s'aperçoit que il va être abusé. L'homme de Dieu a du discernement. Et il sait que rien n'est au-dessus de la parole, des paroles du Maître. On peut citer ce que Paul écrit aux Galates, dans le premier chapitre, au verset 5, si mes souvenirs sont bons. Si un ange venait et vient vous annoncer un autre évangile que celui qui vous a été donné, qu'il soit déclaré anathème. On se souvient de ce que l'apôtre Pierre écrit dans le premier épître en disant qu'aucune révélation ne peut être supérieure, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, et qu'elle n'est en rien supérieure aux Écritures. Rien. Tout est fondé. Rien n'est supérieur à l'Écriture. Aucun don spirituel, aucune prophétie ne peut rajouter ou retrancher quelque chose ou être contraire aux Écritures. C'est notre base, c'est notre repère, c'est notre fil à plomb. Si on veut rester d'aplomb, équilibré, il est nécessaire d'avoir ce repère saint et authentique. Puis il a été abusé par « moi aussi je suis prophète, moi aussi je suis chrétien. Ouais, ils sont ringards dans ton église, ils font ça. Mais moi aussi je suis chrétien, et pourtant je le fais aussi, je le fais. Et toi t'as pas le droit. Il est dur ton pasteur. Oh là là, j'aimerais pas le connaître, hein. Oh, il doit être vieux. Bah ouais, il a 35 ans. Ah oh, bah oui. C'est un croulant. Ouais, ouais. Bon, je le fais, ça pose pas de problème. Ça met pas en cause mon salut. Ouais, mais pour d'autres, oui. Moi aussi, je suis. Il a été également abusé par quelqu'un de plus expérimenté. Un vieux prophète, le privilège des cheveux blancs. Attention de ne pas stigmatiser les choses. Tout ce qui est ancien n'est pas forcément bon, et tout ce qui est ancien n'est pas forcément mauvais. Et tout ce qui est jeune n'est pas forcément bon, et tout ce qui est jeune n'est pas forcément mauvais. Beaucoup se posent ce texte de l'apôtre Paul à Timothée lorsqu'il dira « Ne réprimande pas durement le vieillard ». Ça signifie deux choses. C'est que le vieillard doit être respecté, mais qu'il peut être réprimandé. Rien, ni les titres, ni les prophéties, ni les ressemblances ne sont supérieures aux Écritures. Rien, ni les pratiques, ni les coutumes ne sont supérieures aux Écritures. Ni ce que je pense est supérieur. Ce que je pense n'est pas supérieur aux Écritures. Ce que je juge bon n'est pas supérieur aux Écritures. Vous me détestez ? Pourtant, il y a un hélas derrière. Conclusion. Ça, non. Voilà. Sachons ce que nous devons faire et sachons ce que nous devons être. Connaissons bien ce que Dieu attend de nous. Ok, on veut tous être des hommes et des femmes de Dieu. Faire du bien autour de nous, donner des paroles de Dieu, consciemment ou inconsciemment, peu importe. On veut tous faire avancer le royaume de Dieu. Simplement, quels sont nos cadres? Dans quelle mesure doit-on le faire? Quelles sont les directives que le maître donne à ceux et à celles qui veulent le faire? Lis la parole de Dieu dans ce but-là. Seigneur, voilà, je veux être un homme, je veux être une femme de Dieu. Montre-moi quel est le cadre dans lequel je dois m'inscrire. Et tu verras toutes sortes d'axes de progrès, toutes sortes de domaines dans lesquels eh bien, tu dois t'inscrire. Tu le recevras pour toi individuellement, comme eh bien, pour le peuple de Dieu dans sa globalité. Deuxièmement, veillons aux pots de bananes qui peuvent nous venir même de gens proches. L'homme de Dieu, il est ciblé. Mais gloire à Dieu, il est protégé. Troisième point, annonçons les vérités avec courage, mais faisons-le toujours avec un soupçon de grâce. Et avec un grand soupçon de grâce. Le légaliste, il annonce des vérités. Mais la grâce est complètement mise de côté. Véhiculons et travaillons autour de l'amour, du pardon. Annonçons pour relever et non pour condamner. Réjouissons-nous du relèvement et non de la chute. Moi, j'aime beaucoup l'attitude de David. Quand on vient lui annoncer la mort de Saül, comment des héros sont-ils tombés? Lorsque le messager lui annonce la mort d'Ishbosheth et il pense lui annoncer une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle qui arrive au messager. Vous remarquerez, à chaque fois que David agit ainsi, il a reçu une onction supplémentaire. Réjouissons-nous de notre salut, mais pleurons pour la perte de ceux et de celles qui ne l'ont pas encore reçu. Et le dernier point, je l'ai intitulé ainsi, « L'hirondelle ne fait pas le printemps ». C'est une citation qui, pour les jeunes, a été dite par Aristote. Et qui signifie qu'un fait isolé ne génère pas une généralité, ne fait pas une généralité. Ce n'est pas parce qu'on a donné une fois une parole de Dieu qu'on est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'à un certain moment, on a exercé un trait de caractère ou un don spirituel que l'on devient un homme de Dieu. C'est une grâce, c'est un cadeau, un don spirituel. C'est quelque chose qui est ponctuel. C'est un charisme. Mais l'homme de Dieu, c'est au travers de son caractère qu'il le devient. Finalement, l'hirondelle ne fait pas le printemps, dans le sens où l'homme de Dieu est décédé, mais la parole qu'il a annoncée au travers de Josias, eh bien, s'accomplira. On s'aperçoit que la parole de Dieu, la parole de l'homme de Dieu est différente de l'homme, est distincte du sort de l'homme de Dieu. Vous en avez peut-être connu, j'en ai connu, des hommes remarquables qui m'ont fait du bien. Notamment un qui a été quasiment à l'origine de ma conversion et qui est parti en adultère. Ça m'a fait mal. Mais il n'empêche que tous les enseignements qu'il a pu me donner sont restés gravés dans mon cœur. Il se peut. Je prends encore 3 minutes, mais c'est important. C'est lourd, c'est difficile, mais ça vaut la peine d'être entendu. Il se peut qu'à un moment ou à un autre, un homme, une femme qui vous ait fait du bien, vous déçoive, vous blesse. Chose qui arrive. Ne jetez jamais l'enseignement qui vous a fait du bien avec. Jamais. La parole de ce jeune homme s'est accompli. Parce que c'était une parole de Dieu. Lui a connu un autre sort. Mais la parole de l'homme de Dieu est distincte du sort de l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur nous donne ces traits de caractère, ce courage, cette capacité à finalement rebondir, cette capacité à vivre cette démarche spirituelle. Nous croyons que Jésus fait une œuvre spirituelle dans les cœurs. Alors annonçons-le avec foi et avec assurance. Que son nom soit béni. Amen.